Jérémie chapitre 20, versets 7 à 9. Le texte de notre méditation de ce matin. Le prophète Jérémie chapitre 20, versets 7 à 9. Au nom de Jésus. Jérémie se plaint à Dieu. Seigneur, tu m'as si bien séduit que je me suis laissé prendre. Tu m'as forcé la main. Tu as été le plus fort. Tous les jours, on rit de moi. Tous me tournent en ridicule. Chaque fois que je dois parler, il me faut ensuite appeler au secours. Crier à la violence et à l'oppression. Transmettre ta parole me vaut chaque jour moquerie et insulte. Si j'en viens à me dire, je ne veux plus y penser, je ne parlerai plus de la part de Dieu, alors au plus profond de moi, il y a comme un feu qui me brûle. Je m'épuise à le maîtriser, mais je n'y parviens pas. Amen. Quel texte passionnant, brûlant. On voit ici le rapport que Dieu a avec Jérémie, c'est assez fort. Depuis quelques années, le monde avait été secoué, on va dire, par quelques individus qui osaient dénoncer des scandales dans le monde, scandales économiques, sanitaires aujourd'hui, scandales politiques. Et très souvent, ces gens-là, ils se heurtaient contre les puissants de ce monde, les puissants qui détenaient le pouvoir judiciaire et politique. C'est des gens qui sont au-dessus des gouvernements. Et ces personnes courageuses ne sont autre ce qu'on appelle les lanceurs d'alerte. Pendant les cinq dernières années, ces cinq années, on remarque qu'il y a de plus en plus de lanceurs d'alerte. Ces gens-là sont devenus célèbres. Mais ils n'ont plus de vie. Ils ont dû tout abandonner, le prix à payer, quitter leur terre pour ne pas se faire tuer par les dirigeants, quitter leur famille, abandonner leur travail, ils ont été licenciés, abandonner leurs amis pour le bien de toute l'humanité. Et avec tous les risques et conséquences qui vont avec, voilà la récompense de ces gens-là. Vous connaissez peut-être plus que moi des noms connus, quelques-uns que je connais comme Snowden, Julian Assange, etc., etc. Mais figurez-vous, dans l'Ancien Testament, nous avons aussi un personnage qui est un peu dans ce style-là, un lanceur d'alerte, mais le terme qui est utilisé dans la Bible, un prophète. Un prophète, c'est un lanceur d'alerte. Le prophète Jérémie. Mais le terme conventionnel qui a été utilisé, c'est prophète. Prophète, ce n'est pas quelqu'un qui imagine les choses qui vont venir. Un prophète, c'est celui qui tire sur la sonnette d'alarme. Attention, danger à vue. Et le pauvre Jérémie, il n'a pas eu facile. En acceptant d'être le lanceur d'alerte, le porte-parole de Yahvé, et c'est ce qu'il est en train de nous dire dans ce texte que nous avons aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé? Il se plaint. Il se plaint contre celui qu'il qualifie de l'avoir dupé, contre Dieu. Tu m'as dupé, Seigneur. Tu m'as séduit pour devenir ton porte-parole. C'est grave comme accusation. Et pourtant, une fois que j'ai accepté cette mission que tu m'as confiée, une fois que je suis dedans, ce n'était pas ce qu'il avait espéré. Il ne faisait que ramasser les coups sur lui. Pas de répit pour le pauvre Jérémie. En d'autres termes, il est certain ici de se plaindre et dit que si seulement je savais ce qui m'attendait, je n'aurais pas accepté cet appel. En gros, c'est un peu ce que Jérémie disait que son Dieu, qu'il a appelé pour être son prophète, l'a caché, lui a caché la vérité, ce qui va se passer. Et en écoutant cela, tellement ça m'a touché ce texte, je comprends maintenant certains pasteurs. Avant de devenir pasteur, j'ai discuté avec des anciens pasteurs retraités qui disaient à leur fils, tant que possible, fiston, ne fais pas le même métier que moi. Et je le dis ici devant mes fils aussi. Si possible, ne le fais pas. Parce que c'est une vie assez houleuse. Et en analysant un peu plus en profondeur ces mots de Jérémie, on dirait, je mets entre guillemets, qu'il remet en cause sa vocation. Il est en train de réfléchir, j'abandonne, j'arrête tout, parce que ça va me coûter très cher tout ça. Et c'est assez grave comme parole qui sort de la bouche d'un prophète. En comparant Dieu comme un séducteur. Tu m'as séduit. Or, ce n'était pas le cas. Et j'étais vraiment frappé par la traduction. Pourquoi il a utilisé le mot séduit? Alors je me suis dit, je vais voir ce qu'il y en est vraiment derrière ce mot dans le texte hébreu. Et pour avoir l'esprit clair, je me suis mis à regarder. Dire que Dieu séduit, c'est un peu inhabituel en principe. En principe, c'est le diable qui est appelé le séducteur, mais pas Dieu. Le tentateur, le séducteur, c'est la même chose. Jamais Dieu. Or ici, il est fait exprès par Jérémie d'utiliser le mot séducteur. Et à ma grande surprise, quand j'ai regardé le terme hébreu utilisé, n'a rien à voir avec la séduction dans la traduction français courante et les autres traductions françaises, mais plutôt de spacieux, large, abondant. Je me suis dit, mais ça n'a rien à voir. Et donc, si nous reprenons le texte et nous regardons le contexte, en tenant compte de ce sens en hébreu, nous pouvons donc reformuler la phrase en ceci. Je me suis laissé prendre, Seigneur, parce que tu m'avais donné l'impression que j'avais une marge de manœuvre. Parce que je croyais que j'avais de l'espace, mais finalement tu m'as forcé la main. C'est ce que Jérémie dit ici dans ce texte. Tu m'as forcé la main. Alors, pour comprendre cette reformulation de la phrase, il suffit juste de lire l'histoire de la vocation de Jérémie. Et je vous invite, si vous avez vos Bibles, d'ouvrir vos Bibles dans Jérémie chapitre 1, parce que c'est incompréhensible ce que Jérémie dit ici, s'il n'en sait pas quelle était sa vocation. Donc je vais vous lire la vocation de Jérémie et je souligne, c'est ce texte de vocation de Jérémie qui est le texte qui m'a convaincu de devenir pasteur. C'est mon texte de mon ordination. Jérémie chapitre 1, versets 4 à 10. Dieu appelle Jérémie à devenir son porte-parole au nom de Jésus. Le Seigneur m'adressa ce message. « Je te connaissais avant même de t'avoir formé dans le ventre de ta mère. Je t'avais mis à part pour me servir, avant même que tu sois né. Je t'avais destiné à être mon porte-parole auprès des nations. » Je répondis, « Hélas, Seigneur Dieu, je suis trop jeune pour parler en public. » Mais le Seigneur me répliqua, « Ne dis pas que tu es trop jeune. Tu devras aller voir tout ce qui te... à qui je t'enverrai, et leur dire tout ce que je t'ordonnerai. N'aie pas peur d'eux, car je suis avec toi pour te délivrer. Voilà ce que le Seigneur me déclara. Puis il avança la main, toucha ma bouche et me dit, « C'est toi qui prononceras mes paroles. Tu vois aujourd'hui, je te charge d'une mission qui concerne les nations, les royaumes. Tu auras à déraciner, à renverser, à détruire, à démolir, mais aussi à reconstruire et à replanter. » Voilà la promesse que Dieu lui avait dit. Est-ce qu'il est en train de voir, mais où est tout cela? Tu m'avais promis que je vais démolir, déraciner, mais là, c'est moi qui ai démoli. C'est moi qui ai chaos. Tu m'as séduit. Là, on comprend maintenant Tu m'as trompé, quoi. Tu m'as menti, Seigneur. Pour être direct. Vous voyez ce dialogue entre Dieu et Jérémie. Peut-être vous aussi, vous vous retrouvez. Tu m'avais promis quelque chose, Dieu. Or, qu'est-ce qui m'arrive aujourd'hui? Il avait refusé dans un premier temps l'appel qui lui a été adressé. Il dit non, 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 je ne veux pas. Il avait donné une excuse valable. Il n'avait pas encore l'âge canonique. L'âge canonique juif, c'est 30 ans. C'est pour ça que Jésus a commencé son ministère à 30 ans. Tu ne peux pas prendre la parole en public chez les Juifs si tu n'as pas 30 ans. On ne t'écoute pas. Et d'après certains chercheurs, au moment où Jérémie avait reçu cet appel, il n'avait que 17 ans. Il était très, très jeune. Et donc, il se dit, les gens vont se moquer de moi. C'est qui ce petit bleu? C'est qui ce Jérémie? Il n'a même pas l'âge. Personne ne va m'écouter. Dieu dit, va! Je t'envoie. Donc là, déjà, Dieu ne respecte même pas la norme, mais il l'envoie. Mais pour Jérémie, ce n'était pas ça le vrai problème. Mais il savait que c'est lourd comme responsabilité. Il n'a pas les épaules larges pour ça. Qui suis-je pour être devant les dirigeants de ce monde? C'est ce qu'il voulait dire. Devant les royaumes, les nations. Moi qui ai un petit gamin de 17 ans, Seigneur. Je ne fais pas le poids. Mais le Seigneur l'envoie quand même. Et j'aime bien la façon dont Jérémie dit ici, tu m'as saisi et tu l'as emporté. C'est comme s'il y avait un combat entre lui et Dieu et à la fin, il a été vaincu. Et ce texte me fait rappeler 20 ans passés de ma vocation. C'était ça, c'était intense. J'ai lutté contre cette vocation, j'ai tout fait, j'ai même saboté, je vous le dis. Pendant le concours où j'avais fait le concours pastoral, on était 200 personnes, on recevait que 15 personnes. J'ai tout fait, même j'ai fait exprès de dire des bêtises dans mes papiers pour saboter ma vocation, parce que je savais qu'il y a quelque chose qui me poursuivait. Et j'étais encore repris. Tu m'as saisi et tu m'as emporté. Et une des raisons qui me pousse à aimer particulièrement ce texte de l'Ancien Testament, c'est ce genre de passage où on voit les parcours de vie des grands hommes de Dieu, leur vocation, bien sûr, si noble soit-elle, mais aussi leurs doutes, leurs espoirs, leurs déceptions, leur joie et aussi leurs larmes. Oui, les prophètes de Dieu pleuraient. Ne croyez pas que Jérémie, Ésaïe, Daniel, Ézéchiel, c'était des hommes super-héros. Non, ils avaient aussi leurs faiblesses. Ce n'est pas parce que tu t'appelles Jérémie que tu n'as pas le droit de pleurer. Pleure, Jérémie. Ce n'est pas parce que tu es Jérémie que tu ne peux pas douter. Tu as le droit de douter. Et là, Jérémie nous donne un exemple précieux. Il assume sa colère. Il assume sa déception. Et les histoires de la Bible, je vous dis, chers amis, ne sont pas des histoires pour nous ramollir ou nous emmener dans un monde merveilleux d'Alice au pays des merveilles. Ce ne sont pas des belles histoires qui juste pour nous faire plaisir. La Bible, pour moi, nous ramène à la réalité de la vie. La vie, tout ce qu'elle contient, sa cruauté, la dureté de la vie, fatigue, mais aussi les explosions de joie. On est dans le concret, dans la Bible. La vraie vie, et non un roman ou une saga, comme on dit. Ce qui est à retenir dans cette relation intense qui existait entre Jérémie et son Dieu, je le souligne bien, c'est cette vie sans masque. Jérémie n'avait pas de masque devant Dieu, même si nous, aujourd'hui, on met des masques. Une vie sans masque. Je m'explique. Parce que je suis prophète et donc je dois me retenir dans mes propos. Je dois avoir des propos bien sages en tant que prophète pour faire une bonne impression aux yeux des gens. Jérémie n'avait pas cela. Jérémie, il était cash devant Dieu. Quand il avait quelque chose sur le cœur, il le disait à voix forte. Et ça l'a aidé à avancer. Jérémie, il était en entier. Il était vrai. Voire même, comme j'ai dit tout à l'heure, assez dur. Avec son Dieu. Et je reprends encore cette expression, avec son Dieu. Et c'est peut-être là, je pense, que se situe la clé de ce texte. La passion que Jérémie avait, la qualité de vie que Jérémie avait avec son Dieu. Si vous avez bien remarqué, je n'ai pas dit ce que Jérémie avait avec Dieu, mais ce que Jérémie avait avec son Dieu. C'est deux choses différentes. Toute la nuance se situe derrière ce mot sans Dieu. Avec tous les problèmes du monde entier qui pourraient nous tomber dessus dans nos vies, avec tous les impacts des problèmes et des soucis qui sont totalement durs, l'impact de ces problèmes sont différents si cette relation y a ce sans Dieu, mon Dieu. Quelqu'un qui est en colère contre Dieu, c'est quelqu'un qui est ennemi de Dieu. Mais quelqu'un qui est en colère contre son Dieu, c'est quelqu'un qui se confie à son Dieu. Vous voyez la différence? Il y a une relation. Alors si Dieu est juste Dieu pour toi, c'est normal que cette relation est lourde. Mais en revanche, s'il est ton Dieu, alors là, il y a un lien fort qui ne pourra jamais se casser. Même s'il y aura un clash violent entre toi et lui, comme ce qui était le cas avec Jérémie, Jérémie dit, c'est mon Dieu. Bref, la vie de Jérémie avec son Dieu est une vie qui n'est pas du tout plate. Une vie toujours pleine d'intensité, une vie pleine de passion. Je me suis dit en préparant ce texte, n'est-ce pas le genre de vie que beaucoup de gens, de personnes cherchent aujourd'hui, en espérant une vie de vivre des sensations fortes, pleines d'adrénaline, comme on dit. Des gens payent des sommes énormes pour avoir un peu d'adrénaline. Mais je peux vous assurer, si vous vous laissez séduire, et là je reprends l'expression de Jérémie, si vous vous laissez séduire et accepter l'appel de Dieu à le servir un peu plus en profondeur, vous serez bien servi d'une adrénaline ou d'une relation intense entre vous et votre Dieu. La vie de Jérémie était une vie bien remplie, trop mouvementée même. D'un côté, il a été persécuté par ses compères, il a été incompris, détesté par ses collègues, prophètes aussi, qui avaient la faveur des dirigeants. De l'autre côté, quand il s'est arrêté, il dit, bon, je ne vais plus le faire parce que ça me coûte très cher. Quand il a refusé de proclamer la parole du Seigneur, alors il croyait qu'il allait vivre dans le calme et la sérénité. Maintenant, j'aurai plus de problème. Mais il est bien écrit dans le texte, plus Jérémie se taisait, plus un feu le dévorait à l'intérieur de son cœur. Et la façon dont Jérémie décrit ce feu qui le brûle de l'intérieur est impressionnant. C'est comme si c'était un feu qui voulait sortir de sa poitrine, un feu qu'on ne peut pas contenir, un feu qui cherche tous les moyens de sortir un peu du genre d'un volcan endormi, qui bouillonne en lui et qui cherche une fissure pour sortir. Voilà, celui qui a reçu le feu ne peut pas se taire, même si ça pourrait lui coûter la vie. Paul aussi avait exprimé des propos du même genre. Dans 1 Corinthiens 9, 16, il a dit, car la nécessité m'en est imposée. Il a dit, ça m'a été imposé. Quel malheur pour moi si je n'annonçais pas la bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle me poursuit, dit Paul. Cette bonne nouvelle m'a fait tomber de mon cheval sur le chemin de Damas. Cette bonne nouvelle me conduit dans tous les pays que le Seigneur m'a envoyés. Alors, il ne faut pas lire cette phrase au premier degré, mais la tournure de phrase que Paul utilise, C'est qu'il est lié, il est attaché à jamais à cette parole. Et que s'il ne diffuse plus cette parole, c'est comme s'il se reniait lui-même. Voilà. Ce n'est pas un poids ni un devoir qu'il doit faire. C'est quelque chose qui fait un en lui, cette parole. Donc s'il se tait, c'est comme s'il n'existe plus. Et quand la parole ne fait qu'un avec nous, alors nous vivons pleinement ce que Paul disait. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi du Christ, du Fils de Dieu. Galates chapitre 2, verset 20. Et pour clôturer, je vous pose cette question. Chers amis, chers frères et sœurs en Christ, où en es-tu spirituellement parlant aujourd'hui en 2020? Est-ce que tu brûles de passion pour la parole de Dieu? Je ne dis pas est-ce que tu aimes lire la parole. Est-ce que tu brûles de la passion de la parole de Dieu? C'est différent. L'intensité, ou est-ce juste une option, ou est-ce juste un passe-temps? C'est comme si quelqu'un qui va dans un club de pétanque, un club de jeux de société, donc l'activité aussi d'écouter la parole fait partie des activités. Pour certains, c'est un peu comme s'il écoutait de la musique, qui l'aide un peu à traverser les sales moments de la vie. Oh, je suis fatigué, lance un peu de la musique pour me calmer. Parfois, certaines personnes lisent la Bible juste pour ça. Mais que le feu de Pentecôte descendu sur ceux qui disent disciples de Jésus brûle en lui et le pousse à le proclamer à chaque occasion. Reçois la flamme et sois un avec cette parole. Amen.